Vous écoutez RTL.
Il est 15h04, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre, bien sûr, avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Marie, on vous retrouve évidemment à 16h pour un prochain point sur l'actualité.
À tout à l'heure,
Marie. Un enfant, ça suffit, et c'est tout de suite sur RTL.
RTL, première radio de France. RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus en direct sur RTL. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 16h. Christelle, Hélène, Fabrice et tant d'autres, oh comme nous, hier, adoraient l'émission avec Charles Pépin. Nous nous demandions si les philosophes ne devenaient pas en réalité et en quelque sorte les nouveaux psys d'aujourd'hui. À l'instar de Véronique qui nous a envoyé une photo aux allures de bouffée d'air. Merci d'ailleurs pour ce cliché sur Facebook qui nous écrit « Je suis en train de tailler dans les vignes. Votre invité du jour est un véritable régal et je vois désormais la philosophie d'un autre œil. » Voilà, c'est ça, on est fait pour s'entendre, un programme qui permet de poser un regard différent sur les choses, d'évoluer toujours. Et c'est pour ça aussi que c'est chaque jour passionnant. 3210 ou Facebook donc, ou RTL.fr, ou Twitter, ou même les pigeons voyageurs. Pour partager sur cette antenne, évidemment, je vous entends. Place à la question au sujet de ce jour. Si en couple, en France, pardon, les couples ont en moyenne 2 enfants, 15% des ménages ont un enfant unique. Contrairement à d'autres pays, ce modèle n'est pas perçu positivement chez nous. Tristesse, égoïsme, enfant roi, solitude, surprotection, les clichés sur l'enfant unique sont nombreux. Alors, à tort ou à raison, est-il si différent des enfants issus d'une fratrie? Comment se construit-il cet enfant et quel adulte devient-il? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Agnès Dutheil, bonjour, soyez bonjour. La bienvenue, merci d'être notre invitée. Vous êtes gestalt thérapeute. De quoi s'agit-il?
Gestalt thérapeute.
Alors, vous voyez, on s'est posé la question, on a fait des études, nous, de notre côté. Évidemment, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce métier.
Ouais, c'est une forme de thérapie voilà, qui est enseignée dans les écoles, malheureusement pas encore en faculté en France. J'espère que ça viendra.
Eh bien écoutez, on le souhaite pour tous ceux qui s'y intéressent. Vous êtes auteur d'un ouvrage, La psychologie positive avec les enfants chez Erol. Est-ce que cette psychologie s'applique principalement aux enfants uniques? On a compris qu'elle peut s'appliquer à tous les enfants. Mais puisque c'est le thème du jour, lorsqu'un enfant est seul, est-ce qu'on doit faire montre de psychologie positive?
Quand un enfant est seul, on a, comme, en tant que parent, on a pour mission de l'éduquer, comme chaque enfant. Donc, bien sûr que éduquer les enfants avec la psychologie positive, eh bien oui, c'est une manière d'éduquer les enfants avec un regard particulier, teinté de bienveillance, bien sûr, d'empathie, en mettant un cadre, en travaillant sur les valeurs qu'on veut transmettre en tant que parent, en travaillant sur le sens de la vie, finalement. Voilà, c'est ça, l'éducation avec la psychologie positive.
Mais c'est vrai que pour un enfant unique, c'est quand même un scénario qui est assez singulier, vous serez d'accord avec moi?
Quand on est enfant unique,
oui, pour un enfant unique, est-ce que la façon dont on applique son éducation est différente de lorsque l'on a une fratrie?
Il y a des choses probablement qui sont différentes et en même temps, j'ai le coutume de dire que finalement, il n'y a pas une fratrie qui ressemble à une autre. Chaque famille est différente. Donc finalement, en fait, chaque parent a se posé la question de comment il veut éduquer son enfant, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre à son enfant, et qu'on en ait 1 ou 3 ou 5, ce qui a été mon cas. Je crois que c'est la même chose.
Vous avez 5 enfants.
Oui.
Très bien. Enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui choisissent de n'avoir qu'un enfant?
C'est un choix. J'imagine qu'en tant que parent, on se pose des questions et on n'y donne pas forcément la même réponse. Et je m'imagine que je me suis posé les mêmes questions que les parents qui ont un seul enfant, sauf que j'ai pas apporté la même réponse. Ok, et je trouve que le monde est riche de tout ça.
Eh bien, c'est la raison pour laquelle justement on propose cette émission aujourd'hui à ceux qui nous écoutent. Emmanuel Rigon, soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Alors, auteur de 2 ouvrages, Les enfants hypersensibles, ultra émotifs, hyper susceptibles, toujours à fleur de peau, ça c'est chez Albin Michel. Et puis un autre, Comment survivre quand on est enfant unique, au livre de poche. On va juste s'arrêter 2 secondes sur le titre du second, si vous le voulez bien. C'est une question de survie lorsque l'on est seul.
Alors, c'est surtout une question de collection, hein, puisque c'est la collection qui s'appelait Comment survivre. Oui. Et on s'est retrouvé avec ma co-auteure et la directrice de collection en se disant, bah oui, on est des enfants uniques ou on a un enfant unique. Et c'est une situation particulière qui mérite, en tout cas, qu'on donne quelques pistes pour vivre ça correctement, pour vivre ça bien. Parce que c'est pas toujours évident. Et comme vous le soulignez, le regard social est particulièrement vif. Et ça n'a pas bougé depuis 40 ans, finalement.
Alors, faire un certain nombre d'enfants, c'est le choix des parents.
hein, vous l'aurez effectivement précisé, les parents décident de faire 1, 2, 3 ou parfois 5, voire plus d'enfants. Néanmoins, c'est un choix qui peut paraître subi par les enfants qui doivent suivre le mouvement. On a eu des messages qui nous sont arrivés. Mimi qui nous écrit sur Facebook, je suis fille unique, l'horreur, Dolly Mélancolie. Toute mon enfance a été une souffrance de la passer seule. Avec le temps, une très grande solitude s'est installée et maintenant adulte, je suis toujours seule. J'ai toujours regretté de ne pas avoir un frère ou une sœur, quelqu'un à qui parler, avec qui partager de bons moments, rigoler, se chamailler, faire des bêtises ensemble. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une grande enfant. Et puis Norbert, je suis aussi un enfant unique et aujourd'hui à 49 ans, lorsque je vois la complicité qu'il y a entre mes deux fils, je me dis qu'il m'a vraiment manqué quelque chose. Aujourd'hui encore, je suis quelqu'un de solitaire. Et puis il en est d'autres qui n'ont absolument pas souffert d'être enfant unique et qui nous racontent, à l'instar d'André, à quel point il a vécu une vie faite de jeux, des parents qui étaient là pour moi et un sentiment aussi d'exclusivité sur lequel je me suis construit. J'en suis très heureux. Donc les avis changent, néanmoins c'est quand même la décision des parents.
Alors c'est pas toujours, oui, effectivement.
Là on parle de ceux qui choisissent aujourd'hui.
Alors quand on le choisit, c'est la décision des parents, mais heureusement. C'est-à-dire que la famille, ce sont eux qui en sont à l'origine, à la naissance et au choix. Donc effectivement, de la même manière qu'ils vont choisir d'avoir une famille nombreuse ou un seul enfant, oui. Après, charge à eux, quand il y a beaucoup de solitude comme ça, c'est souvent que la relation a dû se passer de manière un petit peu compliquée entre les parents et l'enfant unique.
Il lui a manqué en tout cas visiblement quelque chose à Norbert et puis aux autres, mais il en est d'autres qui ont été très heureux dans cette histoire et dans cette relation. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de ces familles que l'on peut considérer peut-être un petit peu singulières, en tout cas ces couples qui choisissent de n'avoir qu'un enfant. On va se retrouver dans un instant évidemment avec vous sur l'antenne d'RTL. On vous attend au 3210 et sur les réseaux sociaux et on écoutera le témoignage de Marie. Elle n'a eu qu'un enfant, elle n'en voulait déjà pas à la base et elle a choisi de s'arrêter au boudin. A tout de suite avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, merci d'être avec nous. Nous vous avons proposé aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce sujet, ces familles qui choisissent, donc ces couples qui choisissent de n'avoir qu'un enfant. Et vous avez été très nombreux à réagir. On va, si vous le voulez bien, tout de suite accueillir Marie. Marie, elle a 42 ans. Elle nous appelle de Belgique. Bonjour Marie, soyez la bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Marie, je suis très heureuse de pouvoir vous parler et puis de pouvoir échanger avec vous sur cet enfant dont on parle. On dit l'enfant unique et puis c'est vrai qu'en début d'émission j'expliquais qu'en France, peut-être plus qu'ailleurs, c'est le fait d'avoir un enfant unique était perçu d'une façon peut-être un peu trop négative. On parle d'égoïsme, on parle de tristesse et en même temps il est de très très belles histoires et c'est votre cas avec votre enfant.
Oui, enfin oui, et c'est pas qu'en France, enfin c'est partout.
Oui.
Un enfant unique, c'est souvent effectivement on se prend beaucoup de remarques. De remarques assez jugeantes, oui.
Alors je le disais il y a un instant, à la base en fait vous ne vous sentiez peut-être pas prête à être maman.
Non, à la base je voulais pas d'enfant, non.
C'était quelque chose que vous aviez déjà vissé, une sorte de conviction vissée au fond du ventre depuis longtemps.
Oui, parce que j'avais envie de vivre ma vie. Alors, je ne sais pas si c'était une conviction vissée, mais c'était effectivement quelque chose que je n'envisageais pas. Mmh. Un mariage, des enfants, et parce que je voulais vivre ma vie, je voulais vivre mes passions, et ça ne collait pas. Ce que je voulais vivre ne collait pas avec un enfant en plus.
Qu'est-ce que vous vouliez vivre, en fait, en considérant qu'un enfant était une entrave, quelque part, à votre épanouissement personnel ?
Je voulais être comédienne, je l'ai été d'ailleurs, mais et donc j'avais des horaires complètement fous. Et à l'époque, surtout pendant la vingtaine, voilà, j'essayais vraiment de jouer le plus possible.
Enfin,
c'est un métier qui est très prenant, et avec un enfant là-dedans, c'était tout à fait impossible.
D'accord. Ouais. Bon, ça, ce sont des choix aussi, effectivement, qui se comprennent, parce qu'avoir des enfants et devenir mère, c'est quand même un véritable bouleversement. Alors, néanmoins, quand même, vous avez rencontré le papa de votre enfant. Comment ça s'est passé ?
Ben, en fait, on s'est rencontrés très, très jeune. On s'est rencontrés au lycée. Donc, on était déjà ensemble. Donc, il était tout à fait au courant, mais lui, il voulait des enfants. Oui. Et il me l'avait même déjà dit au lycée, que lui, il voulait deux enfants. Et je me souviens m'être même dit, oh, il va changer d'avis. Et puis, il n'a pas changé d'avis. Voilà.
Donc, il a fallu transiger.
Voilà, exactement. Voilà, je dis souvent que je l'ai fait pour lui, que j'ai fait par amour pour lui, et puis pour finir, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait.
Ben voilà, c'est ça, parce que vous l'avez fait d'abord par amour, et puis vous êtes tombée en amour, évidemment, de votre fils, qui a 12 ans aujourd'hui.
Oui.
Comment s'appelle-t-il ?
Louni, en fait.
Oh,
L-O-U-N-I.
Voilà. Très bien. Alors, comment ça se passe pour Louni? Parce qu'il a 12 ans maintenant.
Oui, ben ça se passe bien, ça se passe très très bien. Là, là, moi je travaille en plus, je travaille de la maison là, donc pour l'instant. Et là, il est en haut dans le bureau, il est en train de tourner une vidéo YouTube avec des copines.
Lui aussi, il s'est mis à ses vidéos justement.
Voilà.
Quand vous avez donc choisi avec votre mari de faire un bébé, de faire ce beau Loumi qui maintenant a 12 ans, j'imagine que Loumi est arrivé et que vous savez, parfois on a la pression d'entourage qui dit bon alors super, vous en avez fait un, donc maintenant le deuxième.
Oui, la question est assez vite arrivée.
Ouais.
Et je répondais assez vite aussi que on allait d'abord élever le premier et qu'on verrait ensuite.
D'accord. Est-ce que vous saviez déjà à ce moment-là que vous n'aviez pas envie d'en avoir d'autres?
Ah bah oui, parce que j'ai toujours dit que je n'en voulais pas et que donc j'en avais déjà. J'en ai pondu un. Je vais pas pondre une famille nombreuse.
Donc en fait, c'était une sorte de stratégie. C'était un peu une parade quoi. Quand on vous demandait, vous trouviez cette réponse de façon peut-être à ne pas rentrer dans des discussions qui vous auraient mis à mal ou dérangé.
Voilà, c'était oui. Je répondais en tout cas aux gens qui savaient déjà que j'en voulais pas et qui étaient étonnés de me voir déjà avec un, que de toute façon j'allais m'arrêter là.
Mmh.
Et puis par la suite, à ceux que je connaissais moins, je disais qu'on allait d'abord s'occuper du premier et puis j'éludais un peu la question. Ouais.
Est-ce qu'il a fallu un jour aussi que vous expliquiez tout simplement que c'était votre choix et que il n'était absolument pas contestable?
Oui, et ça me pose pas de problème.
Mm-hmm.
Je suis assez catégorique, oui.
Mm-hmm.
Et comme la manière dont je réponds, c'est ma phrase. J'en voulais pas, j'en ai pondu un. Hein, je vais pas pondre une famille nombreuse. C'est ma phrase type. Donc là, en général, les gens me laissent assez tranquille après ça. Ouais.
Vous n'en vouliez pas d'autres. Vous l'expliquez parce que c'est une question d'envie aussi. Parce qu'on est capable de donner de l'amour quand on a envie.
En fait, c'est pas aussi arrêté que ça. Mmh. Avec l'âge, au départ c'était j'en voulais pas, puis on a tous les deux évolué. Mon mari et moi, on a eu une petite rupture à un moment, comme on s'est rencontrés très jeunes, le couple évolue. Et pendant cette rupture, il y a eu des choses qui ont été mises au point. Je me suis rendu compte qu'il y avait des non-dits, qu'il en voulait un deuxième, que ça n'avait jamais été vraiment exprimé.
Ouais.
Et donc, la rupture a duré 6 mois, c'était pas très très long, mais ça a été le moment de mettre. Et là, je me suis vue accepter l'idée d'un deuxième. Par contre, lui, il a fait le chemin inverse. C'est vu l'idée d'accepter un enfant unique.
Ouais.
Et donc, on s'est retrouvés un peu par la suite dans une situation inversée. Où lui, il ne se voyait pas avec un deuxième. Il avait accepté l'idée qu'on avait trouvé notre équilibre. Et moi, je me posais les questions. Mais pas au point de lui dire il nous faut un deuxième. Pas au point d'être aussi catégorique que ça. Mais c'était un peu inversé. Mais du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de deuxième non plus.
Alors, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, Marie, on va se retrouver dans un instant, tout de suite, sur l'antenne d'RTL avec Emmanuel Rigon, avec Agnès Dutheil, avec lesquelles, évidemment, nous allons discuter. Elles vont rentrer dans le bal de la conversation. Et puis, vous nous donnerez aussi des nouvelles de Loumi, nous expliquer aussi comment il vit, lui, cette situation de fils unique. Visiblement, il a des copines, puisqu'il tourne des vidéos YouTube. Donc, ça n'est pas un enfant isolé. Mais vous allez nous expliquer comment il se construit, justement, dans cette position. On se retrouve tout de suite, Marie, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci Cathy Labrindille pour vos messages et notamment celui-ci sur Facebook. Je suis maman d'un ado de 15 ans, il a beaucoup souffert de cette situation et moi aussi d'ailleurs. T'en as qu'un et le deuxième justement c'est pour quand? J'en passe et des meilleurs, mais je peux vous dire que dans l'esprit des gens, un c'est bien mais deux c'est mieux, comme si le travail n'était pas terminé. Mais de quoi je me mêle? Et il faudrait en plus que je parle de mon utérus pour que chacun puisse comprendre? Non, non et non. Malgré tout, je crois pouvoir dire que mon fils biologique n'est pas trop malheureux de son enfance, mais notre petite famille va bientôt s'agrandir car nous avons adopté un fils. Alors c'est vrai qu'il y a parfois le choix d'avoir un enfant, parfois pour des raisons médicales on est obligé d'en avoir qu'un, mais comment ça se passe aussi du côté de l'enfant, l'enfant unique et puis les parents, comment sont-ils regardés, comment sont-ils jugés, car on a le sentiment quand même qu'il y a une grande pression sociale autour de ça. On en parle avec nos invités Agnès Dutheil, Emmanuel Rigon et Marie, la maman de Loumi sur RTL. Marie, ça va?
Oui.
Loumi est toujours en train de tourner. Vous êtes allée voir votre réalisateur de fils pendant la pause?
Je leur ai surtout intimé l'ordre de ne pas faire de bruit.
De faire moins de bruit. Bon, il est sympa, Loumi, en tout cas, de faire un tout petit peu silence le temps de votre témoignage. Marie, donc vous nous expliquiez il y a un instant, pour ceux qui nous rejoindraient, que vous avez choisi, vous, de n'avoir qu'un enfant, parce que d'abord, vous considériez, et je peux très bien le comprendre, que d'être maman, ça demande un investissement que vous n'étiez pas forcément prête à donner quand
quand vous avez commencé votre carrière de comédienne. Et puis, c'est l'envie aussi, parce qu'on ne peut pas faire un enfant si on n'en a pas envie. Et pourtant, il y a cette pression sociale, comme le signifie Cathy Labrindy, et parfois la pression familiale, le regard que l'on pose sur l'enfant unique, qui n'est pas forcément facile à gérer lorsque l'on est parent.
Non, non, pas du tout. Mais dans ma famille, en tout cas ma famille proche, c'est assez bien compris. Je pense que les grands-mères sont très contentes voilà, que j'ai suivi ce que je voulais faire. Donc ma mère et ma belle-mère sont en fait plutôt contentes que j'ai un enfant unique parce qu'elles se le disent elles-mêmes. Elles ont passé leur vie à courir et voilà, elles se disent que si c'est mon choix, elles le respectent complètement et elles voient en plus leur petit-fils s'épanouir parce que justement il a une vie en dehors aussi, il a beaucoup d'activités, il voit ses cousines, il a ses amis, il n'est pas du tout isolé, au contraire, voilà, il est excessivement
unique
social.
Ne veut pas dire seul, voilà,
non,
un point qu'il fallait soulever. Je vais me tourner si vous le voulez bien, et évidemment Marie vous restez avec nous, vers Agnès Dutheil et Emmanuel Rigon. Agnès Dutheil, la norme. Oui. Françoise Dolto disait, il faut avoir trois enfants, la famille idéale ce sont trois enfants.
Il se passait trois ans chacun. Et c'est drôle Marie, bonjour Marie, c'est Agnès Dutheil. Quand je vous entends, c'est drôle parce que ça résonne tout à fait avec ce que j'ai pu vivre moi en tant que maman de famille nombreuse. C'est bizarre, hein ? C'est-à-dire la façon dont on vous regarde vous en disant mais voilà, vous n'avez pas fini votre travail, et moi la façon dont on pouvait me regarder en tant que mère de famille nombreuse en disant mais est-ce que vous allez pouvoir vous occuper de tout ça, et en disant aussi ben finalement si vous avez des problèmes avec vos enfants, mais c'est bien normal parce que vous en avez trop, voilà. Avec en plus un fils aîné qui aurait été tellement heureux d'être enfant unique avec les quatre autres vraiment l'ennuyaient et qui me disaient, et où il me disait souvent maman c'est bien moi que tu préfères, n'est-ce pas, voilà. Donc vous voyez c'est drôle comme en fait les extrémités peuvent se rejoindre parce que je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites.
Mais en fait je le vois avec mes amies qui elles ont effectivement des familles nombreuses, on en rigole souvent effectivement tout ensemble parce que on a l'impression de jamais être assez parfaite, avoir bien fait. Donc ça c'est très bizarre parce qu'on est voilà, quoi qu'on fasse c'est jamais
bon. C'est peut-être la difficulté en fait d'être mère avant tout.
Voilà, exactement.
Emmanuel Rigon, qu'avez-vous justement retenu du témoignage de Marie quand elle explique effectivement qu'elle n'avait pas forcément envie, mais que parfois elle trouvait aussi des stratégies, des parades pour ne pas avoir à affronter une conversation où elle aurait été mise en cause, alors que en soi personne ne peut juger.
Oui, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a tout à fait le droit de ne vouloir qu'un seul enfant. C'est-à-dire il y a vraiment un mythe de la famille quand même. On la voit beaucoup dans les publicités. Il y a souvent deux ou trois enfants. C'est quelque chose qui est porté. Oui, mais on a tout à fait le droit. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il n'y a aucune raison pour qu'un enfant seul dans une famille, seul enfant dans la famille, ne s'épanouisse pas à partir du moment où il a de l'attention, de l'amour et où il est considéré comme ayant une place. C'est-à-dire qu'on ne s'épanouit pas parce qu'on a des frères et sœurs. Ça, c'est complètement... c'est même assez étonnant qu'on puisse penser qu'un enfant va s'épanouir parce qu'il a des frères et sœurs. Un enfant va d'abord s'épanouir parce qu'il a une vie intéressante, parce qu'il a des parents qui l'aiment et parce qu'il a des parents qui le soutiennent. Donc ça, c'est vraiment la condition qui existe, que l'enfant soit tout seul ou qu'il soit avec plusieurs. Maintenant, effectivement, un enfant unique ne va pas traverser certaines étapes qui sont relativement facilitantes pour l'insertion socio-affective, qui va être par exemple de vivre la jalousie fraternelle. Donc ça, c'est la chose que l'enfant unique ne traversera pas.
Voilà, et d'autres choses, mais on en reparlera
en particulier,
juste après,
disons.
Voilà. Marie, Loumi ne vous a jamais demandé de petits frères ou de petites sœurs ?
Si, à une époque, à l'époque où il terminait la maternelle.
Oui, donc il était petit, il était dans la norme de Françoise Dolto.
Voilà, exactement, et tous ses copains ont commencé à avoir des petits frères et des petites sœurs. Mmh. Et là, les questions, la demande était là. Ça a duré environ jusqu'à, il y a 2-3 ans, peut-être.
Ah oui, quand même, d'accord.
Oui, où il demandait s'il allait un jour avoir, mais c'était pas pressant du tout, c'était une question comme ça de temps en temps, si un jour il aurait un petit frère ou une petite sœur, ou ce serait bien. Même pas si il demandait pas, il dit oh ce serait bien d'avoir un petit frère, une petite sœur, ce serait sympa, voilà. Et puis à un moment donné, il a changé de bord parce que d'abord on lui répondait oui mais c'est pas mal aussi d'être tout seul, regarde. Enfin on lui montrait évidemment les avantages de sa situation.
Sûr. Il a changé d'avis.
Et il a changé d'avis parce que en allant chez ses copains, il voyait les petits frères et les petites sœurs. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre le petit frère et la petite sœur fantasmée qu'il avait certainement dans la tête et la vie au quotidien avec un petit frère et une petite sœur. Comme il allait jouer chez ses copains, bah, le petit frère et la petite sœur qui vient, voilà, vous construisez quelque chose en Lego, et puis le petit frère qui vient tout détruire. Voilà, et ça, et comme il côtoie quand même beaucoup d'autres enfants, et puis sa marraine, c'est justement une famille nombreuse, donc ils sont trois garçons, donc il va beaucoup chez sa marraine, ils sont tout de suite quatre garçons.
Oui, donc en fait, il est nourri par ailleurs par le reste de la famille.
Et Marie, j'ai trouvé ça moins drôle.
Ben voilà, c'est ça. En tout cas, le temps file. Je vous remercie de nous avoir éclairé de votre expérience. Vous embrasserez Loumi. Vous lui dites qu'il peut recommencer son tournage. C'est la dernière partie. Et puis vous restez à notre écoute. Dans un instant, on va appeler Madeleine. Elle est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Lisandre. Et puis Charles aussi. Il est enfant unique, Charles. Il va nous livrer son point de vue à lui, en tout cas. Marie, je vous embrasse.
Merci beaucoup.
Et merci pour votre écoute et votre fidélité. Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, Emmanuel Rigon, Agnès Dutheil, vous êtes toujours avec nous. Nous venons donc de saluer Marie. Marie, elle était très claire. D'ailleurs, elle avait une façon bien à elle de préciser le fait qu'elle ne voulait pas d'autres enfants. J'en ai pondu un. J'ai pas envie d'en pondre un deuxième. L'envie, elle est essentielle, évidemment, pour faire un enfant. S'affranchir du regard social, vous l'avez souligné, Agnès Dutheil, que ce soit pour avoir un enfant unique ou que ce soit pour avoir beaucoup d'enfants et fonder une famille nombreuse. On a pas mal de messages d'auditeurs qui nous expliquent que peut-être qu'aujourd'hui, les motivations ne sont plus les mêmes que celles d'hier. C'est-à-dire que les raisons financières reviennent régulièrement dans les messages que nous recevons. Dominique, je pense que beaucoup de parents aimeraient avoir plusieurs enfants, mais financièrement aujourd'hui, il faut pouvoir suivre. Et puis la précarité du couple, qui n'est pas la même qu'il y a 40 ou 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça fait partie des nouvelles raisons pour lesquelles les familles se réduisent parfois à un enfant? Agnès Dutheil?
Alors la précarité du couple, probablement, moi je dirais l'isolement aussi du couple, le fait que, eh bien, à cause de, ou grâce, je ne sais pas, aux carrières des hommes et des femmes d'aujourd'hui, on est souvent séparés de notre famille d'origine, et donc très isolés. Oui. Pour les mères, c'est pas toujours évident, les problèmes de garderie, les problèmes, la course, en fait, pour être au travail le matin, récupérer un enfant le soir, c'est pas facile. Quand il y en a un, c'est difficile, mais quand il y en a plusieurs, c'est encore plus compliqué. Donc, je vois tout ça, c'est un ensemble de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres.
Emmanuel Rigon ?
Oui, il y a beaucoup de choses. La précarité, c'est sûr. La pression, surtout le vécu. Et puis je crois aussi l'idée qu'on peut maintenant, quand on est une femme, décider qu'on n'aura qu'un seul enfant ou qu'on n'en aura pas. Et que ça, c'est quand même, même si le regard social pèse encore un peu, c'est quand même plus facile. Et il est à parier que les enfants uniques des années 60, 70 étaient plus subis que choisi. Je pense que les enfants uniques actuellement sont plus un choix finalement, et encore une fois un choix qui peut tout à fait s'entendre, puisque la question, c'est de donner à un enfant, pourquoi pas. C'est ce qui est un tout petit peu dommage, c'est peut-être juste de se dire je vais en avoir un pour en avoir un. Je crois qu'il faut quand même avoir envie d'avoir un enfant, et sans doute que même quand on dit qu'on n'avait pas envie d'en avoir un et qu'on en a un comme mari, c'est que quelque part on avait envie d'en avoir un. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire.
Mais qui avait sûrement au fond d'elle quelque chose qui faisait qu'elle elle a fait son Loumi, et d'ailleurs elle le précise, ça a été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu.
Elle a l'air très investie, et je pense qu'elle, peut-être elle n'osait pas se lancer dans l'idée de pouvoir en avoir un.
Parfois on remet les mères en cause d'ailleurs, le fait d'avoir qu'un enfant, on les remet en cause dans leur capacité à être de bonnes mères, c'est dingue.
On ne serait pas une vraie mère de famille si on n'avait qu'un seul enfant, on ne serait pas une vraie famille. Moi j'ai un collègue qui a un seul enfant, William.
Qu'on embrasse.
Voilà.
William, si tu nous écoutes.
Et il appelle sa famille sa petite famille. Voilà.
Mais c'est fou.
Mais c'est une famille.
Mais c'est quoi une famille aujourd'hui? Et puis d'abord, c'est quoi être enfant unique aujourd'hui, Agnès Dutheil? On a un tweet qui nous est arrivé en disant super l'histoire de l'enfant unique, mais finalement, on peut être enfant unique dans une fratrie lorsqu'il y a une grande différence d'âge entre les frères et sœurs.
Dans une fratrie dans laquelle il y a une grande différence d'âge, dans une fratrie dans laquelle finalement les parents se sont séparés. Vous parliez de la fragilité du couple quelquefois. Les parents se séparent et puis rencontrent quelqu'un d'autre et refondent une autre famille. Bon, avec des écarts d'âge, avec le fait que finalement, ils ont des frères et sœurs, mais seulement d'un autre lit, ce qu'on appelle d'un autre lit, mais eux sont l'enfant unique de ce couple-là. Donc finalement, il y a plein de couleurs d'enfants uniques. Et puis, j'aimerais bien, peut-être on y reviendra tout à l'heure, vous parliez, Flavie, du fait que les couples sont quelquefois plus fragiles aujourd'hui, peut-être, certainement. Et du coup, le fait d'être enfant unique d'un couple fragile, ça a des conséquences aussi.
C'est plus lourd à porter.
Oui. Oui, et parce que le risque, c'est qu'effectivement, l'enfant vienne consoler le parent qui reste tout seul.
Alors, allons-y.
Et ça, ce sera intéressant quand on regarde ça. Oui, c'est-à-dire que je me dis finalement, quand on a un enfant unique, quand on est un couple uni, ce qui est vraiment important, c'est de montrer à l'enfant que oui, on l'aime, oui, c'est notre merveille de notre vie, et en même temps, il y a le conjoint qui est là, qui est très important, qui n'est pas toute notre vie. Et la difficulté quand on est tout seul, c'est que l'enfant peut devenir toute notre vie, et qu'il est là, et qu'il nous porte, et qu'il nous console et qu'il a un rôle qui n'est pas le sien. Ça, c'est pas très juste.
On a Stéphanie qui nous écrit « Quel bonheur votre sujet du jour. J'ai une petite fille de 2 ans et on commence à me rebattre les oreilles pour le deuxième et je n'en ai aucune envie. Je pense que le côté pourri gâté ne tient qu'au comportement des parents et non du fait d'être un enfant unique. Je pense également que lorsque l'on veut mener de front une carrière professionnelle et une vie de maman épanouie, il faut savoir se limiter. » On va se retrouver dans un instant sur le caractère pourri gâté. Parce qu'on dit qu'un enfant unique est forcément pourri gâté. Pourquoi un enfant unique serait-il moins bien élevé? Et Agnès Dutheil, j'ai rebondi justement sur ce message parce que vous expliquiez: on peut dire à un enfant unique, oui, tu es la merveille de notre vie. Mmh. Est-ce qu'on a la même extase devant toute une fratrie lorsque l'on a 5 enfants autour de la table le soir? Vous allez nous expliquer ça, parce qu'on a parfois le sentiment que sur un enfant unique, il y a une sorte de concentration d'amour intense, alors qu'on dit qu'on partage peut-être un petit peu plus l'amour lorsqu'ils sont plus nombreux. En tout cas, on y revient dans un instant avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà plusieurs ouvrages que l'on vous conseille aujourd'hui. Comment survivre quand on est enfant unique, au livre de poche d'Emmanuel Rigon avec Marie-Offray Péricone. Même auteur, Les enfants hypersensibles chez Albin Michel. De toute façon, toutes les références se trouvent sur les réseaux sociaux. Et Agnès Dutheil qui nous vante les mérites de la psychologie positive chez Erol. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, puisque Agnès, vous parliez de cet investissement affectif aussi que l'on peut qualifier de surinvestissement lorsque l'on n'a qu'un seul enfant. Alors c'est vrai que, je le disais il y a un instant, on a l'impression sur les enfants uniques qu'il y a un concentré d'amour, et quand on a plusieurs enfants, comme si l'amour se dispersait, comme si l'amour était quantifiable. C'est inépuisable l'amour, on aime nos enfants, rassurez-moi, même quand on en a 5, on les aime comme s'ils étaient uniques.
Alors moi j'ai découvert en ayant 5 enfants que l'amour c'était pas un camembert,
bien
sûr, et qu'on ne partageait pas le camembert en parts égales, parce que au départ c'est quand même ce que je disais, alors voilà, comme si j'avais mon cœur qui grossissait et que je divisais mon cœur en parts égales, et ce qui est absolument ridicule. Et l'idée c'est de pouvoir se dire chaque enfant est différent et de regarder chaque enfant comme un enfant différent. Et en même temps, ce qui est peut-être probablement plus difficile avec un enfant unique, c'est de se dire qu'on ne peut pas éduquer un enfant sans rentrer dans des conflits qui sont sains, sans à un moment donné, en fait, quand on met du cadre, de pouvoir dire le cadre c'est ça, et du coup ça provoque un conflit. Quand on a plusieurs enfants, c'est peut-être plus facile parce qu'on peut se retourner vers les autres, et même si la tension est vive avec l'un d'entre eux, eh bien on peut rester dans la tension pendant un moment. Alors que ce que je peux voir, c'est qu'avec un enfant unique, c'est beaucoup plus difficile à supporter. Et qu'on a plus tendance en tant que parent à laisser couler parce qu'on ne va pas rester dans le conflit pendant longtemps.
Ça fait partie effectivement des différences, qu'on ait un enfant ou qu'on en ait plusieurs. Je voudrais avoir votre avis, Emmanuel Rigon, sur cette idée de surinvestissement affectif avant de vous lire le message d'Annabelle qu'on a reçu.
Oui, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est-à-dire forcément, il n'y en a qu'un.
C'est possible.
Donc, c'est le tenant de la famille, c'est-à-dire que cet enfant, c'est parce qu'il est là que la famille existe. Et il y a souvent d'ailleurs un surinvestissement, une surprotection, parce qu'il y a des angoisses. Évidemment, quand on en a 5, on restera une famille, même si on en perd un. Si on perd celui-là, on n'est plus une famille. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'angoisses, et c'est presque un risque de ne faire une famille qu'avec un enfant, finalement.
Annabelle nous a écrit ce message. J'ai un garçon de 16 ans et je ne souhaite pas en avoir d'autres, malgré les remarques désagréables qui m'ont culpabilisée pendant longtemps. Et les raisons sont les suivantes. Mon fils est tellement parfait, bon élève, toujours sage, tendre, attentionné avec ses parents, que j'ai peur d'avoir un autre enfant qui ne soit pas aussi parfait et que par conséquent je l'aime moins. De plus, je suis l'aînée d'une fratrie de 3 sœurs et mes sœurs jumelles ont toujours été les préférées. J'ai plusieurs exemples qui me font croire qu'il est impossible d'aimer tous nos enfants de la même manière. Je n'y crois pas du tout et je ne veux pas faire subir à l'un de mes enfants la tristesse de se sentir moins aimé. Ainsi, je n'en aime qu'un seul. Il a toute l'exclusivité de notre amour et il nous le rend bien. Lui-même ne veut pas avoir de frères et de sœurs, car il ne souhaite pas partager cet amour et c'est sans doute de l'égoïsme de la part de nous trois, mais nous sommes très heureux ainsi. Le seul bémol serait la peur qu'un jour il lui arrive quelque chose et que nous perdions notre raison de vivre.
Et notre famille, par définition. Hein. Mais c'est vrai que souvent, là, il y a pas mal de cas, moi ça m'arrive de consulter avec des fratries, des petites petite fratrie de deux. Et parfois, l'arrivée d'un petit frère rompt cette espèce d'équilibre à trois là, qui est décrit par votre auditrice et qui était le choix de la famille. Et parfois, la pression sociale ou la pression familiale fait avoir un deuxième enfant qui va être compliqué à insérer dans ce projet de vie qui existait à trois et qui était idéalisé à trois.
Et l'autre bémol, moi je dirais, finalement, par rapport à votre auditrice aussi, c'est que, l'expérience que cet enfant est en train de vivre dans sa famille, c'est-à-dire je suis unique et parfait dans cette famille, quand il sort de sa famille, il n'est ni unique ni parfait. Et comment ça va être vécu, ça, pour cet enfant-là? Moi, je me dirais que le deuxième bémol, il est quand même là.
Voilà, s'adapter au nombre.
C'est ça qui est difficile pour un enfant unique aussi, c'est de s'apercevoir qu'à l'extérieur, il n'est pas unique.
On a reçu un message de Vernette, un tweet. Je confirme, tous les enfants uniques ne sont pas pourris, gâtés ni égoïstes. Est-ce qu'il y a quand même un risque qu'ils le soient?
Pas plus que dans une famille de deux ou de trois ou de quatre.
Donc ça tient aux parents.
Absolument.
Alors, on va donner la parole, si vous le voulez bien, à Charles. On va l'accueillir sur cette antenne. Salut Charles, soyez le bienvenu sur RTL.
Bonjour, merci de me recevoir.
Est-ce que vous êtes un grand maintenant, parce que vous avez 29 ans, mais un grand gâté pourri?
Grand gâté pourri, on peut dire ça, avec le recul que j'ai maintenant, du haut de mes 29 ans, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui.
Je me dis j'ai eu plus ou moins la chance d'être un enfant unique. Et je rebondis sur le message dont vous parliez tout à l'heure là sur Annabelle qui disait que son enfant était parfait, etc., etc. Il y a aussi une chose à laquelle on n'est pas confronté. Quand on est enfant unique, c'est qu'on n'a pas ce problème de comparaison. Mm-hmm. Moi, je l'ai eu via mes cousins germains, mais pas vis-à-vis de mes frères et sœurs, puisque j'en ai pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins cette chose-là. C'est-à-dire que moi j'ai eu à l'école, je pourrais compter la même école et le même collège que mes cousins, et on disait ah mais ton cousin lui il fait ça, et j'ai oui mais pas moi, et c'est mon cousin, c'est pas moi. Et sinon, donc pour revenir donc sur votre sujet des enfants gâtés, je pense que oui, parce que finalement il y a tout simplement, c'est une question aussi de moyens, c'est-à-dire que bon, je suis issu d'une famille qui n'est pas malheureuse, qui en même temps, hein, dans ma jeunesse, ça a eu ses problèmes, comme la plupart des familles. Mais forcément, il n'y a pas cette idée de devoir partager les choses dans la fratrie. C'est aussi un des aspects.
C'est quelque chose qui vous a manqué ?
Alors moi, ce qui m'a plus manqué, c'est de partager mes activités.
Ouais.
Dans le sens où, par exemple, moi aujourd'hui, je reste plus ou moins un grand enfant parce que j'ai des activités vidéoludiques assez importantes. Et donc, c'est vrai que ça a tendance à avoir une connotation un peu enfantine, plus trop. Enfin, de mon avis, c'est pas vraiment vrai, mais c'est quand même une activité que je pratique depuis que j'ai 6 ou 7 ans. Mmh. Et donc, c'est vrai que quand on a 6 ou 7 ans, on joue un peu avec les copains, etc. Bon, moi, à l'école, j'avais malheureusement pas forcément un très très bon rapport avec mes camarades de classe, donc je partageais pas non plus ça avec eux. Et c'est vrai que à la maison, j'aurais bien aimé que j'ai quelqu'un de mon âge, avec qui je puisse partager des activités. Après, bon, j'en partageais d'autres avec mes parents, avec mon père notamment, on fait de la musique tous les deux, mon père est musicien professionnel pour le coup, donc moi je suis resté à un niveau amateur, on avait quand même ça en commun.
Mais est-ce que c'était une façon de rompre la solitude, ces moments que vous passiez avec votre père?
Alors moi j'en ai pas vraiment conscience, c'est-à-dire que mon père étant professeur, j'ai été dès l'âge de 5 ans naturellement inscrit dans une école de musique, dans un conservatoire, etc. Et j'ai fait tout le cursus, et pour moi c'était naturel.
D'accord.
C'était limite la suite de l'école, et donc ça je m'en suis pas vraiment, c'est pas vraiment une démarche qui m'a été...
Vos parents n'étaient pas là pour combler votre solitude, c'est, pour vous ça n'a pas été, il n'y a pas eu confusion, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, je me tourne vers mes parents parce que je me sens seule, ça n'a pas forcément été votre démarche?
Non, tout à fait.
Vous voulez des enfants, vous, Charles, quand vous serez grand?
Là, tout de suite, je suis pas très chaud.
D'accord. Pourquoi?
Parce que, déjà, ma maman est assistante maternelle.
Ah, donc il y en a pas mal?
Donc, elle garde des enfants à la maison. Elle garde une fratrie de trois, justement, d'enfants à la maison.
Ah ouais, donc ça, hein.
Et, tout à coup. Moi, je ne suis plus à la maison. Hein,
oui.
Je suis parti de la maison il y a 4 ans. Mais le plus grand de la fratrie, on a 10 maintenant.
Mais par exemple, est-ce que vous avez envie, et je vais vous demander, on va faire court et je vais être obligée de vous dire au revoir après, sinon je vais me faire disputer par Alexandra qui travaille avec moi. Non, mais c'est pas de votre faute, c'est de la mienne, Charles. Mais est-ce que dans l'absolu comme ça, vous voudriez être père plus tard et avoir plusieurs enfants?
Alors si j'ai la chance d'avoir des enfants, ce serait évidemment plusieurs.
D'accord.
Justement, parce que j'ai pas souffert dans le sens propre du terme, mais
quand même.
Mais ça m'a manqué. Je me dis, voilà, il y a des choses quand même que j'ai fait petit que j'aurais bien aimé partager. Voilà.
Bon, bah Charles, il n'y a qu'à vous et rien qu'à vous qu'on va envoyer des baisers, justement. On va vous embrasser pour vous dire, oui, comme ça, vous ne les partagez pas, donc ça, c'est plutôt sympa. Enfin, je ne sais pas.
Ouais, je suis devenu égoïste.
Soyez égoïste et nous, on va être généreux. On va vous embrasser. Je vous remercie. En tout cas, prenez bien soin de vous. Salut, Charles.
Salut.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci à Charles pour sa confiance et son témoignage sur l'antenne d'RTL. Nous allons rebondir sur tout ce qui a été dit Emmanuel Rigon, Agnès Dutheil. Emmanuel, vous vouliez justement revenir sur les derniers propos de Charles qui nous racontait toutes les activités qu'il pouvait faire avec son père notamment.
Oui, je trouve que la plupart du temps, les enfants uniques ont cette chance quand même, je pense que c'est une chance, de faire facilement les activités des adultes quand elles sont à leur portée et d'être souvent associés aux activités des parents. C'est-à-dire qu'on fait venir un babysitter pour garder 2-3 enfants. On ne fait pas venir un babysitter pour garder un enfant, on l'emmène au cinéma avec soi. Et ça peut être très bien. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert tous les films de Claude Sautet, enfin voilà, assez tôt. Et que je suis devenue psychologue, peut-être.
Par
tout ça. Mais donc, ça, c'est le côté intéressant. Maintenant, il y a aussi le côté partage. Et je crois que ce qui est toujours intéressant à avoir en tête quand on est parent d'enfants uniques, c'est est-ce qu'ils partagent suffisamment? Alors, il y a les cousins, il y a les copains.
Avec des enfants de son âge,
avec d'autres
dire.
Enfants du même âge. Hein. Et on ne partagera pas nécessairement beaucoup avec un frère ou une sœur, hein, ça c'est aussi un mythe, c'est aussi un fantasme. Si on est un garçon de 13 ans avec une petite sœur de 7, on va pas nécessairement partager beaucoup de choses. Donc, encore plus important pour l'enfant unique, en tout cas, c'est d'avoir des copains et des occasions d'avoir des copains.
Voilà, favoriser le lien social avec des enfants de son âge. Vous vouliez rebondir également, Agnès Dutheil.
Oui, j'ai entendu tout à l'heure le témoignage que vous lisiez, Flavie, sur cet enfant parfait.
Le
fils d'Annabelle.
Vous avez la chance, Annabelle, d'avoir un fils parfait.
Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce fils avait le choix de ne pas être parfait? Parce que c'est un petit peu la difficulté aussi quand on est un enfant unique, c'est que en tant que parent, on a beaucoup d'ambitions pour ses enfants, on projette beaucoup de choses, on a envie qu'ils réussissent là où on a échoué. Finalement, quand on a plusieurs enfants, peut-être que on peut ambitionner certaines choses pour certains et d'autres sur d'autres. C'est comme si on partageait justement en fait nos ambitions, alors qu'un enfant unique, la difficulté, c'est que il va recevoir à lui tout seul toutes les projections de ses parents, toutes les ambitions de ses parents, et finalement avoir à être parfait pour leur plaire. Et je me dis, cet enfant, est-ce qu'il pouvait être autre chose que parfait? Voilà.
Il y a de la chance aussi pour certains à être unique. Annick qui nous écrit, ce n'est pas l'idéal d'être enfant unique, mais parfois, et souvent d'ailleurs, cela leur donne une force dans la vie que les autres n'ont pas forcément, c'est-à-dire savoir rester seul sans problème et développer leur imaginaire. On dit qu'ils peuvent être égoïstes, car pas besoin de partager, mais ça peut s'améliorer en vieillissant. Alors, on va revenir, c'était marrant d'ailleurs, Charles qui nous expliquait que lui, il voulait plein d'enfants, mais qu'en même temps, quand il allait chez sa mère qui était devenue famille d'accueil, il y en avait 3, donc...
Et moi, j'ai aussi entendu, évidemment, évidemment qu'il en aurait plusieurs. Ça, c'était...
Oui. Alors, mais en même temps, Annick nous explique que ce sont des enfants qui ont une capacité d'adaptation au monde adulte.
Il y a un entraînement à la solitude, quand même.
Et on dit toujours que l'ennui construit un enfant. Alors, ça ne va pas forcément tout justifier, mais que l'ennui peut construire un enfant et que des enfants peuvent, dans des moments de solitude aussi, être particulièrement créatifs, savoir s'occuper et jouer. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Oui, mais ils s'habituent à la solitude. C'est vrai qu'il peut y avoir une solitude heureuse. Hein. Il peut y avoir des moments où on est bien. On sait que les parents sont à côté et on peut être seul avec soi et bien avec soi. Et c'est vrai que je pense que l'enfant unique s'habitue à être seul. Donc quand ça lui arrive dans la vie ultérieurement, au moins il est entraîné. Et c'est vrai que l'imaginaire, le jeu, la lecture sont des activités, le jeu imaginaire se développe beaucoup plus que l'interaction.
Anne-Marie qui nous écrit « Je suis issue d'une famille de 5 enfants, mais mon amie d'enfance était fille unique et je sais que cela lui pesait. Moi, je lui enviais sa belle chambre pour elle toute seule, de son côté. Elle adorait venir de notre famille, mais ses parents ont eu la gentillesse de m'accueillir chez eux tous les week-ends et c'est ainsi que nous avons d'excellents souvenirs de sœurs. Mm-hmm. » Alors, les liens du sang, hein, et puis il y a cette affection que l'on peut porter. On ne choisit pas sa famille, on peut s'en construire une autre aussi.
On peut la choisir, sa famille. Mmh. Ben oui.
Mmh. Enfin, on peut en tout cas se créer une nouvelle famille, Agnès Dutheil. Mmh. Ça veut dire que on peut ne pas rester ou ne pas subir sa position d'enfant unique.
On peut ne pas la subir, comme on peut aussi ne pas subir sa position d'enfant de famille nombreuse et se choisir une autre famille. La preuve, en fait, aussi, dans ce qu'elle dit, cette jeune femme. Oui.
Quels sont les conseils que l'on peut donner à ceux qui, aujourd'hui, s'interrogent sur le fait d'avoir plusieurs enfants, les avantages, les inconvénients? En même temps, on est tous libres de faire ce que l'on veut, je l'entends, mais qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui?
Ce qui est peut-être important, c'est de voir déjà si on a choisi ou pas. Si on a choisi d'avoir un enfant unique, il y a toutes les chances pour que ça se passe quand même assez bien. Parce qu'on est à peu près clair avec soi-même.
C'est bien vécu.
Quand c'est subi, c'est plus dur. Alors, nous, avec ma co-auteure, on a écrit un livre justement pour aider les enfants uniques. On a passé en revue des situations que tous les enfants uniques traversent et on leur donne des pistes pour y réfléchir et pour trouver comment faire. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des situations très spécifiques. Notamment quand on est seul avec un parent, c'est assez lourd.
Oui, effectivement. Bien sûr.
Mais effectivement, privilégier le lien, les activités extérieures, la socialisation, ne pas tout focaliser sur l'enfant.
Unique n'est pas seul.
Voilà.
Agnès Dutheil.
Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un enfant unique, ça s'éduque comme une enfant de famille nombreuse, c'est-à-dire être capable quand même de mettre un cadre à un enfant, être capable de rester en conflit avec un enfant, lui faire confiance aussi dans ce qu'il est capable de faire, le laisser s'autonomiser seul et ne pas toujours être un petit peu là. Quand on a plusieurs enfants, finalement, à un moment donné, on n'a pas le choix. On ne peut pas être avec chacun. Un enfant unique, on pourrait trop le suivre, trop être avec lui. Donc, c'est plutôt ça, j'ai envie de dire aussi. Laissez-les vivre.
Allez, on se retrouve tout de suite. À propos de laisser vivre, je vais vous parler du programme de demain. Tiens, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, il ne me reste plus qu'à vous saluer, Agnès Dutheil. Vous embrasserez vos 5 grands-enfants, donc, et puis toutes mes félicitations. Votre ouvrage, La psychologie positive avec les enfants, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci
beaucoup, Emmanuel Rigon. Donc, les enfants hypersensibles, ultra-émotifs, hypersusceptibles, toujours à fleur de peau, ça c'est chez Albin Michel, pour les parents qui nous écoutent, d'enfants de ce genre. Et puis, comment survivre quand on est un enfant unique, au livre de poche, co-auteur Marie Auffray-Péricone. Merci beaucoup.
Voilà, à destination plutôt des enfants eux-mêmes, là.
Très bien. Le message est passé. Nous, on se retrouve demain. Alors, avant de vous parler du programme de demain, si vous croisez, alors, ce ne sont pas des Pères Noël, hein, mais si vous croisez des moniteurs de ski de l'ESF qui se baladent comme ça en pleine ville, dans leur tenue rouge traditionnelle, dans les transports en commun et les quartiers passants de Paris, de Marseille, de Bordeaux, de Lyon et de Strasbourg, ça n'est pas une blague. Voilà, on ne va pas faire du ski, mais vous aurez peut-être l'occasion de le faire, justement. Vous allez les voir, ils sont très sympathiques, et puis vous pouvez vous inscrire auprès d'eux. Vous serez peut-être rappelé en direct sur RTL, ce sera demain tout au long de la journée, pour remporter un séjour pour 4 personnes au ski. Voilà, donc si vous croisez des moniteurs de ski, surtout allez les voir, saluez-les, ça n'est pas forcément une blague. Nous, on se retrouve demain dès 15h, on va s'intéresser à ces couples qui jamais ne se séparent, qui n'étaient que la moitié d'eux-mêmes avant de rencontrer l'autre, qui s'éteignent quand l'être aimé n'est plus dans leur champ de vision et se rallume en sa présence. Toi plus moi égale rien que nous, les couples fusionnels, c'est demain et c'est à 15h avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes, une relation fusionnelle. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.